Le Globetrotter en action, avec les insolites d'œuf, j'ai trouvé un insolite extraordinaire en la présence de Sacha. Bonjour Sacha.
Bonjour.
Vous avez un parcours assez original qui sort un peu de l'ordinaire. Quand je suis sur votre site internet, je pourrais interpréter le premier écrit puisqu'il y a marqué « Du cinéma à l'artisanat ». Qu'est-ce que c'est que ça? Comment ça se fait? Quel est votre parcours? Qui êtes-vous? Que faites-vous dans la vie?
Alors, c'est un parcours un peu tortueux, puisque à la base, étant quelqu'un qui ne savait pas spécialement ce qu'il voulait faire de sa vie, mais qui était plutôt bon élève, j'ai plutôt été orienté par mes profs et mes parents à faire le parcours classique du bac scientifique, une prépa Hippocagne. Puis ensuite, une prépa Hippocagne, c'était encore de l'enseignement général. Je me suis spécialisé en faisant une licence de droit et puis un master de sciences politiques. J'ai eu l'opportunité de travailler pendant 2 ans comme assistant parlementaire au Sénat. Et à la fin du mandat de la sénatrice pour laquelle j'ai travaillé, j'ai fini mon parcours universitaire en faisant une prépa ENA à l'ENS. Et donc, j'ai préparé pendant 1 an les concours de la haute fonction publique. Et j'ai eu un déclic à un moment qui m'a fait réaliser que je ne pouvais pas continuer dans cette voie-là, que ça ne me satisferait pas.
Vous appelez ça un parcours classique, vous?
C'est un parcours de voilà, je sais pas si c'est classique, mais
moi j'ai pas fait l'ENA. Hein.
Ah, j'ai pas fait l'ENA non plus, hein, j'étais juste préparé.
Ah, préparé, d'accord.
Je ne me suis pas inscrit au concours et c'est au grand dam de mes professeurs, donc c'était assez.
Est-ce que c'était une démarche logique par rapport à votre famille, par rapport à vous, de faire ce type de parcours entre guillemets? Vous avez quelqu'un dans la fonction publique? Vous avez quelqu'un qui est parlementaire dans votre famille?
Alors, j'ai ma mère qui a toujours été fonctionnaire dans une petite ville à côté de Nancy.
D'accord.
C'est un parcours. Mon père a été pendant longtemps militant syndical et politique.
Donc d'accord.
On a toujours eu un peu à cœur la chose publique dans la famille. Mm-hmm. Et moi-même, j'ai été militant et c'est ce qui m'a amené d'ailleurs à être assistant parlementaire. C'est que j'avais le bagage juridique et le bagage politique pour pouvoir faire le liaison avec la sénatrice.
D'accord.
Mais voilà, mis à part ça, j'en avais pas tellement. Et même du côté artisan, j'ai mon oncle et mon grand-père qui étaient peintres en bâtiment, mais je les ai pas tellement connus en activité que ça. Mais je sais que, c'est un peu anecdotique, mais je sais que quand j'allais à Marseille et que avec mon oncle on prenait sa camionnette et que on déambulait dans les rues et il me disait « Ah, cet immeuble-là, c'est moi qui l'ai peint, cet immeuble-là, c'est moi qui l'ai peint ». C'est vrai que c'est une fierté que moi, je n'avais pas dans mon travail auparavant, même si je faisais des choses intéressantes, hein, mais je ne le vivais pas comme ça. Et donc, c'est vrai que voilà, ça m'a donné envie. Après, mis à part cet exemple-là, je n'avais pas vraiment de lien avec des artisans.
D'accord. Alors, le déclic, c'est quoi? Vous arrivez, vous voyez un meuble. Le déclic.
Non, pas du tout, si ça avait été si simple que ça. Le vrai déclic pour me faire comprendre qu'il fallait que j'arrête dans la voie dans laquelle j'étais, c'est quand j'ai été admissible à la Banque de France et que la seule chose dans laquelle je me projetais, c'était l'annoncer à mes parents. Et voilà, c'est là que je me suis dit que je ne pouvais pas fonder toute ma carrière juste sur le simple fait de rendre fiers mes parents et de les soulager du fait que j'avais un statut jusqu'à la fin de ma vie. Et donc voilà, là le déclic, ça a été de me dire, ça ne peut pas continuer comme ça. Et donc j'ai pris une année où j'ai voyagé un peu autour du monde pendant une année. Et ça m'a permis de prendre suffisamment de recul sur moi et aussi par le biais des rencontres que j'ai faites avec soit d'autres voyageurs, soit des gens localement. Ça m'a fait réaliser que voilà, j'avais envie non seulement de travailler de mes mains, j'avais envie de faire de la création. Et très naturellement, j'en suis venu à vouloir travailler le bois comme matière. Et donc voilà, à mon retour, j'ai entamé une reconversion en faisant des formations en ébénisterie, en menuiserie en siège, grâce à des dispositifs qui existent en Lorraine et dans le Grand Est. Mais c'est vrai qu'à mon retour de voyage, je ne savais pas encore si j'allais pouvoir oser le faire. Donc, du Sénat à l'IFOL-le-Grand où j'ai fait ma formation, il y a eu beaucoup, beaucoup d'étapes, beaucoup de remises en question, beaucoup de déclics pour m'amener aujourd'hui à monter mon atelier sur Nancy.
Alors, il y a quand même une chose, un déclic particulier. Vous parlez à un moment donné, dans une interview que vous avez réalisée, de meubles sacrés quand vous étiez au Sénat.
Ouais, c'est vrai qu'au Sénat, c'est une ambiance un peu particulière. Hein. C'est j'allais dire le vieux monde, mais c'est un peu trop connoté aujourd'hui, mais c'est vous avez au Sénat une hiérarchie assez importante à respecter qui
Oui.
s'inscrit même jusque dans certains meubles. Parce que si vous allez par exemple à la bibliothèque ou dans la salle des conférences, il y a des sièges sur lesquels seuls les sénateurs peuvent s'asseoir et pas les assistants. Je ne parle pas de
D'accord.
l'hémicycle, hein, je parle bien dans la
Oui.
bibliothèque. Je me rappelle, j'allais souvent travailler à la bibliothèque. Et derrière moi, j'ai toujours cette image de Robert Badinter qui lisait son journal. Et c'est un endroit où jamais j'aurais pu m'asseoir moi, quoi. Et donc c'est vrai que ça donne une approche, on regarde ce mobilier-là d'une autre façon.
Justement, quand vous parlez de meubles sacrés, donc je trouve que l'exemple est très joli ce que vous venez de donner. Vous passez à l'ébénisterie parce que ça vous permet de faire des choses de vos propres mains. C'est la définition de l'artisan de base. C'est une vous copiez des choses existantes, vous créez vous-même. C'est quoi votre ADN?
Alors non, moi je fais vraiment que de la création, que ce soit travailler sur mes propres créations que ensuite je vais exposer et proposer au public, ou de la création sur mesure spécifiquement pour un client. Ça nous est déjà arrivé qu'on nous demande justement de recopier quelque chose. Alors soit c'est de l'ancien et potentiellement on serait capable de le faire, mais c'est pas un travail pour lequel on est spécialisé. Soit malheureusement ça arrive souvent que des gens nous envoient le travail d'autres artisans et veulent qu'on le recopie. Et pour nous, là, c'est hors de question parce que nous-mêmes, on fait de la création. On sait à quel point c'est un investissement en temps et en argent. Et donc, voilà, nous, on a pris le parti de jamais faire de copie de choses existantes.
Ça veut
Alors,
dire que...
forcément, ensuite, on s'inspire de que ce soit de l'histoire des arts, de l'histoire du mobilier ou de l'histoire de l'art, enfin, de l'art contemporain aujourd'hui. Il y a toujours des connexions qui se font, mais on n'est jamais dans la copie pure et parfaite.
Oui, j'allais vous parler de protection intellectuelle ou la fameuse protection. Est-ce que quand vous créez quelque chose, vous êtes protégé? Est-ce que vous êtes obligé de le déposer à l'INPI? Vous êtes obligé
Non, non, non.
Ça se fait
Alors, on
pas.
nous conseille parfois d'envoyer un petit mot à l'INPI, ça s'appelle les lettres solo, juste pour dire que bah, voilà, on a créé tel objet à telle date. Mais ce n'est pas tellement pour empêcher les autres de nous copier, parce que très clairement, on nous fait vite comprendre qu'il suffit de changer juste 2-3 codes, 2-3 mm par-ci, par-là, et ça passera. Et qu'en plus, la deuxième chose, c'est que les gens qui potentiellement voudraient vous copier et qui peuvent être des grosses boîtes, etc. Ils ont une batterie d'avocats qui fait que pour un petit artisan, ça ne servirait à rien de perdre son temps dans ça. Mais voilà, la lettre solo, c'est plus pour au cas où on nous aurait copié et où le vice pousserait plus loin la personne à vouloir nous empêcher de travailler sur notre propre création. On a quelque chose pour dire au juge, non, moi j'ai fait ça avant lui, donc il ne peut pas m'en empêcher. Mais mis à part ça, il n'y a aucune protection juridique. Et ce qu'on nous fait bien comprendre en formation ou d'autres créateurs qu'on rencontre, c'est que le jour où on se fait copier, la seule chose à faire, c'est d'en être content et de se dire que le projet valait le coup d'être copié. Et de voilà, il n'y a pas
D'accord.
d'autre démarche au niveau de l'artisanat à faire que ça.
Alors, en ce qui vous concerne, vous positionnez comme un créateur de mobilier contemporain. Alors, je vais être un peu basique, ça veut dire quoi?
Alors, bah, créateur, donc c'est ce que je vous ai dit, c'est soit on travaille sur notre propre gamme ou nos propres créations, soit sur du sur-mesure. Et mobilier contemporain, bah, c'est justement pour dire que on a des formations qui sont excellentes et qui nous amènent aussi beaucoup à travailler sur du mobilier de style. Mais aujourd'hui, que ce soit au sein de mon atelier ou au sein d'un collectif d'artisans qu'on a créé sur Nancy qui s'appelle Biarty, l'idée c'est de dépoussiérer justement ce monde de l'artisanat qui véhicule des images assez fortes dans nos subconscients et de dire que l'artisanat, ce n'est pas juste quelque chose pour, je vais le dire un peu,
Allez-y, allez-y.
tirer au couteau, mais ce n'est pas juste nos grands-parents qui aiment des petits objets en bois. Non, on peut faire de la création contemporaine. Les savoir-faire qui sont traditionnels, qui nous ont été transmis par les générations précédentes, nous sont extrêmement utiles pour faire de la création contemporaine. Et sublimer aujourd'hui le métier, ça passe par le biais de faire des choses qui correspondent plus à l'air du temps que le mobilier auquel on est habitué par nos grands-parents.
Vous travaillez sur quel type de matériaux?
Alors, essentiellement, bien sûr, le bois,
C'est du
c'est
traditionnel,
la
ça.
matière. Bah,
Je l'ai
non,
fait un
c'est
peu
la
exprès.
matière en elle-même. Oui, non, non, je comprends. C'est la matière en elle-même, c'est sûr que ce n'est pas un matériau composite ou un nouveau matériau, mais il y a aussi derrière l'idée d'avoir une matière qui soit une matière renouvelable, et ça c'est assez agréable, une matière qui est vivante, qui a un vécu. Donc nous on travaille essentiellement ça et on tient à faire justement à rester beaucoup sur le massif qui est aujourd'hui de moins en moins travaillé parce que de plus en plus cher en matière et de plus en plus cher en main-d'œuvre puisque ça demande beaucoup de temps. Mais voilà, nous c'est ça notre credo, on travaille beaucoup les bois, enfin on travaille essentiellement les bois indigènes, les bois locaux. Nos scieries, elles se provisionnent à 30 km autour d'elles. Là, c'est une démarche qui nous intéresse. On travaille pas sur des bois exotiques. Et
D'accord.
ensuite, en termes de matériaux, souvent l'alliance de matériaux est quelque chose qui permet de mettre en valeur chacun des matériaux. Donc, on peut être amené à ensuite utiliser du verre, moi j'utilise aussi par exemple dans certaines de mes créations de la résine qui me permet de trouver un élément transparent dans ma création pour mettre en avant un assemblage justement qui est soit traditionnel, soit qui est issu d'une autre culture, essentiellement le Japon. Voilà, on peut être amené à travailler, on travaille le métal aussi, et puis ensuite c'est aussi des partenariats avec d'autres artisans parce que bah, par exemple quand on travaille avec de la pâte de verre, nous on connaît pas ce métier-là, on a une vague idée de comment ça fonctionne parce qu'on a l'habitude de se côtoyer entre nous, mais on va faire appel à un professionnel, à un ami dont c'est le métier et sur lequel justement c'est un peu la richesse aujourd'hui de l'artisanat en France, c'est qu'on est loin du cliché de l'artisan qui travaille tout seul dans son atelier. Alors certes, c'est quand même beaucoup ça, mais c'est de plus en plus de collectifs, des jeunes artisans, une émulation et des créations qui sont communes entre nous.
Le mardi 12 mars, ça a été le 30e anniversaire de l'apparition du web. Et moi, ce qui est génial, c'est que je suis devant votre site internet. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une photo en noir et blanc avec vous, avec un ustensile, et vous êtes en train de couper du bois. Ça, c'est de l'authentique, c'est du vrai. Vous considérez que vous transportez des valeurs avec ce type d'activité?
C'est vrai que c'est ce que je vous dis. Moi, pendant pas mal d'années, j'ai été un militant syndical et politique, et je considère pas aujourd'hui, n'étant plus dans ces sphères-là, je considère pas que j'ai abandonné le combat. Parce que pour moi, l'artisanat, c'est une vraie réponse à la mondialisation telle qu'elle est aujourd'hui, à la standardisation des objets qui nous entourent, et au fait d'avoir des objets qui sont de moins en moins bien faits et sur lesquels on exploite de plus en plus les gens. Donc à travers ça, moi, j'ai mes valeurs qui sont là, et c'est aussi l'artisanat, c'est à la fois des créations qui sont individuelles, mais qui sont toujours collectives par le simple fait que c'est des générations entières qui nous ont transmis leur savoir-faire, et que nous-mêmes ensuite, on est chargé, c'est un peu l'éthique des artisans, de transmettre. En ce moment, on accueille des stagiaires à l'atelier, c'est des choses qui nous demandent beaucoup de temps, mais qu'on a à cœur parce que déjà des gens ont pris le temps pour nous former, nous. Donc c'est la moindre des choses de rendre le service. Et c'est aussi justement pour faire en sorte que les savoir-faire ne se perdent pas et faire en sorte que de nouvelles générations d'artisans prennent la relève justement pour mener cette lutte-là. Dire que voilà, vous avez des artisans à côté de chez vous, faites-les travailler, vous aurez quelque chose qui sera soit une pièce unique, soit en série très limitée. Et pas forcément, c'est sûr qu'on est sur des prix qui sont tout de suite assez élevés si on compare à IKEA, mais par rapport à des grandes maisons d'édition, on est sur des tarifs assez équivalents et vous aurez vraiment une pièce unique.
Il y a du boulot dans le domaine de l'artisanat, parce que tout le monde se plaint de ne pas avoir de travail. Si on se forme, on peut trouver sans aucun problème.
Alors non, sans aucun problème, je ne vais pas vous dire ça parce que déjà, je vois au jour le jour depuis septembre que c'est compliqué, que c'est la galère. Du boulot, il y en a toujours. Après, ça dépend de ce qu'on veut faire. Nous, comme on fait surtout de la création et qu'on est moins dans la menuiserie, et bah, très concrètement, les gens ont moins besoin de nous, justement parce que je vous l'ai dit, il y a tellement de maisons d'édition, et même où on fait du beau mobilier, hein, je ne vous parle pas d'IKEA, que les gens en soi, ils n'ont pas besoin de nous. Contrairement au menuisier qui doit poser une fenêtre, lui, il n'est pas en concurrence, entre guillemets, avec les
D'accord.
Chinois, là où nous, tout de suite, on est en concurrence. Donc, c'est sûr qu'on doit. On doit se défendre et on doit faire en sorte d'assurer plusieurs métiers en même temps, que ce soit déjà notre métier technique, mais ensuite tout ce qui est vente, comptabilité, etc. Et c'est là-dessus que voilà, c'est un engagement au quotidien. Donc il y a du boulot, mais c'est quand même pas mal de taf derrière pour réussir à en vivre.
D'accord. Bon, alors, le site internet, Instagram, Facebook, comment on fait pour vous retrouver? Parce que c'est de l'artisanat du troisième millénaire avec vous.
Voilà, bah c'est ce que je vous disais, c'est assurer la vente et la partie commerciale. Ouais. Bah, vous pouvez me retrouver sur mon site internet, donc c'est chatonnelly.com, ou sur le site de l'atelier avec lequel je travaille, qui est, sur lequel vous avez toutes nos créations, et qui s'appelle l'atelier 124, tout attaché, .com.
Allez, la dernière question, vous êtes prêts?
Oui.
Est-ce que vous regrettez votre métier passé?
Ah non, c'est sûr que je ne regrette absolument pas mon métier passé. Non pas que je le dénigre, hein, le travail de
fonctionnaire. Ah non, c'est pas la question. Non, tout à fait.
Mais voilà, moi, les conditions d'exercice ne me plaisaient pas.
C'est un espace de liberté important pour vous, j'ai l'impression.
Oui, c'est ça. Même si c'est beaucoup de contraintes d'être artisan, c'est aussi beaucoup de liberté sur ce qu'on souhaite faire.
Sacha Tognoli, dans Les Insolites de jour. Merci, je vous souhaite une excellente journée.
Merci beaucoup à vous aussi.